Livre de Daniel, au chapitre 1er, il est écrit ceci. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et la siégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleins d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi, et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger de se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi, mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge ? Et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi ?» Mais Daniel dit au maître d'hôtel, qui avait été établi par le chef des eunuques, sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours. » et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donnait des légumes. Or, Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. Et au bout des jours fixés par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils entrèrent au service du roi. Et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà, notre thème de ce matin, c'est une pleine conscience de Dieu. Une pleine conscience de Dieu, c'est important parce que, comme toutes sortes d'activités, les activités dans le Seigneur peuvent nous amener à baisser dans la connaissance. Quand je dis la connaissance, ce n'est pas la quantité de choses qu'on connaît, mais dans la connaissance pratique de Dieu, la conscience que Dieu existe, Dieu est là, Dieu est bon, il est tout puissant. Il nous faut une pleine conscience de Dieu, que Dieu est partout, que Dieu connaît nos cœurs, Dieu nous aime. Il nous faut une pleine conscience de Dieu. Si nous voulons être fidèles à Dieu, il nous faut une pleine conscience de Dieu. Il faut arrêter avec la religion, arrêter avec les habitudes, arrêter avec la distraction, arrêter avec la religion aussi, banque, caisse ou médecine, où nous venons prier, nous venons chercher Dieu pour des besoins personnels. Ce sont des choses qui arrivent lorsque nous nous laissons entraîner par la routine. Et j'ai fait un voyage dans un pays d'Afrique. Et je donne le nom du pays, le Congo, capitale Kinshasa. Et bien aimé, tout ce qui est religion prospère là-bas. Que ce soit les Mormons, que ce soit les baptistes, que ce soit les pentecôtistes, tout ce qui est comme religion prospère. Et les gens, bien-aimés, sont en train de faire de la religion pour s'en sortir par rapport à leur vie. La situation économique étant difficile, et les gens vont dans ces bâtiments religieux, dans ces mouvements, pour s'en sortir. J'ai eu très mal de voir la saleté spirituelle, bien-aimés, de voir que il y avait les églises, pratiquement toutes les grandes églises avaient leur chaîne de télévision. Jésus est devenu comme une sorte de produit financier, bien-aimé. Produit de marchandage. Bien-aimé, c'est tellement fort que j'ai eu l'impression d'étouffer, bien-aimé. Et si le Seigneur ne m'avait pas donné ce passage de Daniel, j'aurais été écrasé, bien-aimé. Le Seigneur m'a donné Daniel. J'ai lu Daniel. J'ai compris que nous ne sommes pas les premiers à vivre des situations difficiles. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont vécu des temps plus difficiles même que les nôtres. Vous imaginez quand vous perdiez la guerre à l'époque? C'est comme si votre Dieu aussi perdait la guerre. À l'époque, chaque peuple avait son Dieu. Donc, quand les Daniels perdent la guerre, on a lu, hein, le roi a pris les instruments qui étaient utilisés pour adorer l'Éternel. Nebuchadnezzar a pris ça pour amener où? Dans la maison de son Dieu à lui. Un signe de victoire. Donc, la guerre entre peuples, c'était pas seulement une guerre entre peuples, c'était une guerre entre divinités en même temps. Lorsque Dieu permettait qu'Israël se batte, c'était pas parce que Dieu n'aimait pas les autres peuples. Dieu voulait montrer aux autres peuples que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. À travers les guerres qu'Israël menait, alors qu'il était en petit nombre, Dieu voulait montrer au peuple grand et fort, en apparence, que le véritable Dieu, ce n'était pas leur faux Dieu qu'ils adoraient de telle ou telle autre manière, mais le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Mais là, bien-aimé, le Dieu d'Israël n'a pas perdu. Parce que c'est écrit que c'est lui qui a livré son peuple. Mais cependant, mettez-vous à la place des gens, des Juifs, des Israélites. Pour eux, même tout le monde n'était pas au courant comme certains que c'est Dieu qui a livré son peuple. Mettez-vous à leur place. Pour beaucoup, ils pouvaient aussi se dire « Dieu nous a abandonnés » ou bien « Notre Dieu n'est pas si puissant que ça. Notre Dieu n'est pas si fort que ça. » Bien-aimé, c'était une situation difficile. Vous perdez la guerre. On prend les ustensiles de votre Dieu, on amène dans le palais de notre Dieu. On vous déporte, donc on vous prend de votre pays, on vous amène ailleurs. Donc Daniel s'est retrouvé à Babylone. Vous imaginez quelqu'un qui est pris du Bangladesh et qui est amené aux États-Unis. Non seulement ils ont perdu la guerre, mais ils se retrouvent dans un pays plus grand, un pays beaucoup plus riche, mieux construit. Donc Babylone, c'était la grande ville de l'époque. Donc Daniel est pris de Jérusalem, des environs de Jérusalem, pour être amené à Babylone. Non seulement ils ont perdu la guerre, deuxièmement, il a l'impression, comme les autres qui étaient là, humainement, tu te rends compte que tu es dans un pays plus grand, plus puissant. Normalement, bien-aimé, il aurait tendance à dire le Dieu de Babylone est le plus grand. Normalement, il aurait tendance à dire le Dieu de Shinéar est le plus grand. Mais curieusement, c'est là que Daniel prend conscience de Dieu. Il prend conscience que Dieu, son Dieu, est le véritable. C'est curieux. Quand j'ai lu l'histoire de Daniel que je connaissais, mais dans le contexte dans lequel j'étais, j'ai dit, tiens, on a des prédécesseurs valables. Des vrais prédécesseurs, des vrais pionniers, les Daniel, qui ont vécu dans un autre pays, mais qui ont dit, qui se sont dit à eux-mêmes, et qui ont dit à ceux qui les entouraient, que le véritable Dieu, c'était leur Dieu. C'est pourquoi, chrétien, même si tu te retrouves en position d'extrême minorité, en position difficile, alors que tout semble montrer que tu as perdu, attache-toi à l'Éternel. Le Dieu de Daniel, c'est le plus grand Dieu. C'est le véritable Dieu. Attache-toi à ses préceptes. Attache-toi à sa parole. Daniel a dit non. On a peut-être perdu la guerre, mais c'est Dieu qui nous a livrés. Ce ne sont pas ces gens-là. Pourquoi? Daniel connaissait la parole. Daniel connaissait la sortie d'Égypte. Daniel connaissait ce que Dieu a fait avec Joseph. Daniel connaissait ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham, à lui tout seul, il a vaincu plusieurs rois. Il vivait comme dans une sorte de défaite. Mais, comme il connaissait la parole, il savait que c'était pas une défaite. C'était à cause de leur péché à eux. C'était leur propre faute. Leur Dieu restait le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où on a l'impression que ce qui est des ténèbres paraît plus fort et plus puissant que ce qui est de la vérité. Hier, on était dans la ville de Claire pour un concert. Bien-aimés, quand on dit qu'il y a la glace, en Normandie, il y a la glace. Donc les gens écoutaient les paroles des chants. Il y en a qui étaient en colère, il y en a qui rigolaient, qui devaient nous prendre pour des illuminés. Mais nous, nous savons que le jour où Jésus-Christ reviendra, ces gens-là arrêteront de rigoler et ils regretteront de ne s'être pas convertis le jour de ce concert-là, bien-aimés. Nous connaissons la réalité. L'apparence, c'est quoi? C'est que nous étions dans une très belle salle d'une commune riche. C'est ça l'apparence. Mais la réalité, c'est que nous étions en face des perdus. Et qu'un jour, ces perdus-là vont se rendre compte qu'ils étaient perdus. Il y a les apparences, il y a la réalité. L'apparence, c'est que Daniel était comme dans une position de défaite. Il était dans un pays étranger, un pays plus grand que son pays. Son pays venait de perdre la guerre. L'apparence, c'est ça, bien-aimé. L'apparence, c'est que les vrais chrétiens sont minoritaires. L'apparence, c'est qu'il y a comme si on ne peut rien faire. J'ai dit dans mon cœur, c'est faux. On peut faire quelque chose. On peut travailler pour le changement de ces pays-là, infestés par la religion, infestés par la foi mécanique, la foi financière. Dieu a utilisé Daniel. Il peut utiliser d'autres personnes aujourd'hui pour changer les choses, bien-aimés. Il nous faut prendre conscience de Dieu. Il faut arrêter avec la routine. Il faut prendre conscience que Dieu est à côté. Il faut prendre conscience que Dieu nous écoute. Il faut prendre conscience en lisant sa parole. Quand on lit sa parole, on comprend qui est Dieu. Et nous lisons l'histoire de quelqu'un qui avait aussi grandement conscience dans Luc 2. Luc au chapitre 2. À partir du verset 43. Il est écrit ceci. Lorsque les jours de la fête furent achevés, on commence plutôt au verset 41. Or, son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Lorsque les jours de la fête furent achevés, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent une journée, puis ils le cherchèrent parmi leurs parents et ceux de leur connaissance. Et ne le trouvant point, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur faisant des questions. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. Il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, lorsqu'il atteint 12 ans, pour les Juifs, quand on atteint 12 ans, quand on va au temple, à l'époque, on allait au temple, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue dans certaines congrégations, pour faire la bar mitzvah, c'est-à-dire une cérémonie où tu es reconnu comme étant une entité spirituelle à part entière. Donc, tu deviens un homme spirituellement actif. Donc, tu peux participer à la communion quand il y a prière, quand il y a regroupement des Juifs. Et Jésus a atteint cet âge-là d'entrer dans la conscience de communion avec le Seigneur et avec les autres Juifs. À l'âge de 12 ans, ils vont à Jérusalem et finalement, après le nombre de jours de fête, Jésus-Christ reste à Jérusalem. Sa mère et son père ne s'en étaient pas rendus compte et ils l'ont cherché, la Bible dit, pendant 3 jours. Ils l'ont cherché et ils finissent par le trouver en train de discuter avec les grands docteurs et en train de leur expliquer les choses. Alors, sa mère et son père disent, mais pourquoi tu nous as fait cela? Jésus dit, mais c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui n'avez pas discerné que je devais m'occuper des affaires de mon père. Et bien aimé, pour contrer certains qui croiraient que Jésus-Christ était insoumis, la Bible nous montre clairement au verset 51, il s'en alla ensuite avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Jésus-Christ était soumis. Mais bien aimé, Jésus-Christ était le serviteur de Dieu. Et ses parents n'avaient pas encore très bien compris la chose. Même s'il était soumis à ses parents n'étaient pas attentifs à Jésus lui-même. Jésus atteint l'âge de 12 ans, l'âge d'entrer dans... Il avait maintenant la permission d'intervenir dans les choses spirituelles. C'est déjà la preuve que Jésus était soumis. Parce qu'il aurait pu parler à 10 ans, à 11 ans, faire ce qu'il a fait là, à 9 ans. Mais il a attendu l'âge officiel, à 12 ans. Bien-aimé, vous vous imaginez la soif de Jésus de servir son Père. Depuis l'âge de 3, 4 ans, il attendait ce moment-là. Ce sont ses parents qui se sont fait avoir par la routine religieuse. Ils sont partis, comme d'habitude, faire les jours qu'il faut de culte au temple. Ils ont négligé qu'ils avaient à côté d'eux le Fils de Dieu et que lui n'allait pas aller de la même manière qu'eux, bien-aimés. Vous savez, quand on a conscience de Dieu, on ne va pas vivre la même foi que les autres. Certains vont venir le dimanche, faire leur part, prier, rentrer chez eux, mais toi, tu ne vas pas vivre la même chose. Pour toi, tu viens, si tu es un vrai chrétien, tu viens pour les affaires de ton Père. Tu viens pour ton Père, tu es conscient. Bien-aimé, je suis parti à un culte. Quand j'ai voyagé, et après le culte, je reviens à la maison, on est en train de préparer la table et on m'invite encore à un autre culte. Je ne suis pas parti pour prêcher ou quoi que ce soit. Mais je sentais en moi que c'était les affaires de mon Père. Je dois aller encore prier quelque part. Bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui te pousse. D'ailleurs, les gens qui devaient m'amener, ils m'ont laissé croyant que j'allais manger. Et je suis parti moi-même chercher à pied là où ça s'est trouvé. Et j'ai trouvé, bien-aimé, pourquoi c'est les affaires de mon Père. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me force pour aller au culte. Je n'ai pas. Et les gens peuvent dire, mais tu viens déjà de culte. Oui, mais si je dois participer à 5 cultes, je vais participer à 5 cultes. C'est les affaires de mon Père. J'étais dans un pays qui avait besoin de Dieu. Certes, je n'ai rien fait comme quelqu'un s'attendrait prêcher ou faire parler à la télévision, mais je sais que ma prière a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Et j'allais dans ces cultes-là pour invoquer le Seigneur pour le pays, pour dire, Seigneur, tu dois changer les choses ici, pour prier. Et même si j'étais déjà dans un culte, j'ai dit non, je ne peux pas supporter voir les choses comme ça. Quand je regarde les hommes, bien-aimés, je dis, ce sont les hommes que mon Père a créés. Vous voyez des gens souffrir, aller se faire escroquer dans les églises, les fausses églises. Je dis non. Ce sont les hommes de mon Père. Et je suis parti encore prier pour que Dieu change les choses, bien-aimés. Il faut prendre conscience de Dieu. Dieu ne supporte pas voir tout ce qu'on voit chaque jour. Des gens qui se suicident avec leurs enfants. Il y en a parce que juste, on a vu à la télé une femme, comme elle n'était pas sûre d'être retenue, elle tire sur les gens. Bien-aimés, quand on regarde ces choses-là, on doit dire, si cette femme connaissait Dieu, elle ne mettrait pas sa foi dans le travail. Nous devons prendre conscience que c'est les affaires de notre papa. Nous devons arrêter avec la religion qui s'intéresse qu'à soi-même. Tu t'intéresses qu'à toi, à ton mariage, à ta famille. Intéresse-toi aux affaires de notre Père. Jésus a dit, mais pourquoi vous me cherchez? Vous n'avez pas compris que moi, je suis consacré à Dieu. Vous n'avez pas compris que ma vie, c'est mon Père. Il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus-Christ devait être scandalisé de voir les erreurs qu'il y avait dans le temple. À 9 ans, 10 ans, il ne pouvait rien faire parce qu'il était soumis. Il devait attendre 12 ans. Et quand les 12 ans sont arrivés, il a dit, maintenant je vais essayer de parler à ces sacrificateurs-là, parler à ces grands chefs-là, leur expliquer ce que c'est que la vraie parole. Il leur a expliqué. Il n'a pas dit, j'ai 12 ans. Il a dit, c'est les affaires de mon Père, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens disent, je ne suis pas pasteur. C'est les pasteurs qui doivent prier beaucoup. C'est les pasteurs qui doivent faire des choses, des sacrifices. Non, bien-aimé. Jésus, à cette époque, n'avait pas ce titre-là de pasteur. Il était un enfant de 12 ans. Mais il savait dans le fond de son cœur, c'est les affaires de son Père. Bien-aimé, est-ce que tu es vraiment conscient d'être un enfant de Dieu? Est-ce que tu es conscient d'être fils et fille de Dieu? Et de porter les fardeaux du papa? Il faut qu'on prenne conscience de Dieu, bien-aimé. Tant qu'on ne prend pas conscience, Dieu ne peut pas agir. La religion va faire que nous allons prier pour faire, se faire voir. Nous allons adopter une attitude pour plaire à un pasteur. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on sache qu'il est là, qu'on a affaire à lui. On a affaire à lui. On n'a pas affaire à des hommes, bien-aimés. Nous voyons la différence. Marie et Joseph étaient venus faire leur cérémonie habituelle. Mais Jésus n'était pas venu faire une cérémonie habituelle. Il était venu travailler pour son Père. C'est ça la différence. Il y a des gens qui viennent pour faire leur cérémonie habituelle. Mais il y a d'autres qui viennent parce que l'honneur de leur papa est en jeu. Pour les affaires familiales, je vais prier pour que la ville de Rouen change. Je vais prier pour que la Normandie change. Je vais prier pour que le nom de Dieu soit glorifié dans mon quartier. C'est les affaires de mon Père. Je vais rencontrer mes frères et sœurs, bien-aimés. Je ne vais pas rencontrer des rivaux ou des concurrents. Je viens rencontrer mes frères et sœurs. Même s'ils sont imparfaits, mais ce sont mes frères et sœurs. Jésus-Christ devait être impatient d'aller au temple, quoi. Et on a quelqu'un qui le dit, moi je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. David, qui était roi, bien-aimé, entouré de fastes et de richesses, il dit, moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que c'était la maison de son Dieu. Eux déjà, ils n'avaient même pas conscience encore que c'était leur Père. Mais là, nous, nous avons conscience que c'est non seulement notre Dieu, c'est notre Père. Et lorsque je vois les gens qui se disent officiellement chrétiens, même si leur comportement n'est pas parfait, ce sont mes frères. J'étais dans ce culte-là comme un inconnu au milieu de ses frères. Je connaissais personne, mais j'étais chez moi. J'étais chez moi parce que mes frères et sœurs sont là. Ce sont les enfants de mon Père. Bien-aimés, nous devons prendre conscience de cela. Prendre conscience de Dieu. Quand tu prends conscience de Dieu, Dieu prend. Fais attention à toi. Vous savez, Daniel après, ça pouvait paraître difficile ce qu'il a fait. Parce que premièrement, quand on prend conscience de Dieu, on vit comme un étranger. Tout le monde mange les mets du roi, toi tu refuses. Ça devait être des mets extraordinaires. Mais lui, il se contente des légumes et de l'eau. Ça peut paraître difficile vivre en étranger quand on prend conscience de Dieu. Parce que lorsqu'on prend conscience de Dieu, on comprend que ce monde est pourri. Et que Dieu étant parfait, il ne veut pas de la pourriture. Ce monde est pourri. Dieu étant parfait, il veut autre chose. Et comme on commence à vivre en fonction de cette autre chose-là, ça va paraître comme des contraintes vis-à-vis des humains. Fuir le péché, le vol, la corruption, la colère, la jalousie, l'impudicité, la vengeance. Quand tu ne pratiques pas ces choses-là, tu vas paraître comme un poltron. Tu vas paraître comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Tu vas paraître comme quelqu'un d'improductif, quelqu'un qui n'a pas de réaction. Un mort, en bref. Oui, en réalité, tu es un mort. Tu es mort par rapport aux choses de ce monde. Et quand tu meurs ainsi, tu es insignifiant aux yeux des humains. Tu parais sans goût. Mais bien-aimé, c'est toi qui as la vie. Et ça peut paraître difficile ainsi. Mais bien-aimé, nous voyons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Nous lisons dans Daniel 2. Le roi Nebuchadnezzar fit, plutôt Daniel 2. Or, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et son esprit fut troublé et son sommeil interrompu. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit, « J'ai eu un songe, et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. » Et les chaldéens dirent au roi, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons réduites en voirie. Mais si vous me dites le songe et son interprétation, vous recevrez de moi des dons, des présents et de grands honneurs. Dites-moi donc le songe et son interprétation. » Ils répondirent pour la seconde fois et dirent, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit, « Je comprends maintenant que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Mais si vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous frappera tous, car vous êtes préparés à me dire quelques paroles fausses et mensongères, en attendant que le temps soit changé. Dites-moi donc le songe et je saurai si vous pouvez m'en donner l'interprétation. » Les Chaldéens répondirent au roi et dirent, « Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il fût, n'a demandé pareille chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Car ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le faire connaître au roi, excepté les dieux dont l'habitation n'est point parmi les mortels. » Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée, on mettait à mort tous les sages, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel parla avec prudence et sagesse à Arioc, chef des gardes du roi, qui sortait pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arioc, le grand officier du roi, « Pourquoi cette sentence si sévère de la part du roi ?» Alors Arioc fit connaître l'affaire à Daniel. Et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Puis Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux, touchant ce secret, afin qu'on ne fît point périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision, pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force, et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. » C'est pourquoi Daniel alla vers Arioc, à qui le roi avait ordonné de faire périr tous les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr tous les sages de Babylone. Introduis-moi auprès du roi et je donnerai au roi l'interprétation. » Alors Arioc introduisit promptement Daniel auprès du roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'interprétation. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son interprétation ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Le secret que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne sont capables de le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans la suite des jours. Voici ton songe et les visions de ta tête sur ta couche. Ô roi, il t'est monté des pensées sur ta couche, touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Et ce secret m'a été révélé, non qu'il y ait eu en moi plus de sagesse qu'en aucun des vivants, mais pour que l'interprétation en soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de la statue était d'or fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses hanches étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre fût détachée sans le secours d'aucune main et frappa la statue dans ses pieds, qui était de fer et d'argile, et le brisa. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été. Et le vent les emporta et il ne s'en trouva plus de vestiges. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est là le songe et nous en donnerons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le règne, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, en quelque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que toi, puis un troisième royaume, qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, ainsi pareil au fer qui brise et met tout en pièces, il brisera et mettra tout en pièces. Et comme tu as vu les doigts en partie d'argile et en partie de fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé à l'argile, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Comme tu as vu que de la montagne une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main et qu'elle a brisé le fer, les reins, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. Alors Nebuchadnezzar, le roi, tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui présentât des offrandes et des parfums. Le roi parla à Daniel et dit, « Certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle le secret, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit des riches présents. Et il établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages de Babylone. Et Daniel pria le roi de proposer Shadrach, Meshach et Abednego à l'administration de la province. Mais Daniel était à la porte du roi. Amen. Bien-aimés, quand nous avons conscience de Dieu, quand nous commençons à nous mettre à part, vivre en étranger, loin des pratiques que tout le monde exerce, loin d'imiter le monde, quand nous prenons pleinement conscience de Dieu, Dieu va se révéler à nous. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Dieu a subitement créé une circonstance pour prouver que le Dieu de Daniel, c'était le véritable Dieu. Vous voyez comment les autres ont été confondus. Daniel n'était pas le seul conseiller. Il y avait plein de conseillers. Mais tous ces conseillers-là n'ont pas pu dévoiler ce que le roi avait fait comme songe. Et Daniel a été le seul. Mais moi, ma question, est la, ma pensée est la suivante, ma réflexion mais pour avoir, est la suivante. C'est que pour avoir le courage de dire au roi, « Roi, donne-nous du temps pour qu'on nous donne l'interprétation, bien-aimé. » Il fallait vraiment être certain de Dieu. Parce que le roi dit qu'il va tuer tout le monde parce que les gens n'ont pas pu interpréter. Et Daniel va le voir pour lui dire, « Donne-nous du temps. » Et on te donnera l'interprétation. Bien-aimé, C'est extraordinaire. Ça, c'est la vraie conscience de Dieu, la vraie foi, où tu sais que je suis dans l'avion, j'ai dormi aujourd'hui, la veille de mon voyage, Dieu ne m'a pas dit que je mourrais. Donc même si l'hôtesse, même si le commandant de bord signalait des turbulences, signalait qu'il y a le feu, toi tu sais que tu seras toujours vivant, bien-aimé. C'est ça la vraie foi, où tu as pleinement conscience de Dieu. Tu marches avec Dieu. La Bible dit, et non qu'à marcher avec Dieu, et Dieu l'a pris, quoi. Quand tu marches avec Dieu, tu sais ce que Dieu pense. Lui, il sait ce que tu penses. Et à un certain moment, il y avait une telle fusion entre Enoch et Dieu que Dieu a jugé bon de l'enlever du milieu des hommes, quoi, pour le prendre avec lui. Tu marches avec Dieu, tu as pleinement conscience. Comme un serviteur le disait, les gens sont tout le temps là à chercher la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Normalement, bien aimé, quand on marche avec Dieu, on sait ce que Dieu pense. Il peut arriver qu'on cherche sa face lorsqu'on s'est un peu refroidi. Mais si on marche dans la communion, dans la lumière, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement en communion. Bien-aimé. Daniel savait qu'il était de Dieu. Daniel savait que son Dieu était le plus fort. C'est ce qu'il a autorisé à dire, bon, laisse-nous du temps. Bien-aimé, si tu sais cela, bien-aimé, tu vas avancer avec le Seigneur. Tu ne vas pas avoir peur de la fin du mois. Tu ne vas pas avoir peur d'un avion. Tu ne vas pas avoir peur de l'immensité du mal. Tu diras qu'on nous laisse le temps de prier. Qu'on nous laisse le temps de prier, bien-aimé. Qu'on nous laisse le temps de prêcher. Qu'on nous laisse le temps d'obéir à Dieu. Et on va voir ce qu'on va voir. Et Daniel a dit, laissez-nous le temps. On leur a laissé le temps, Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, vous voyez, il y a des choses qui peuvent être obtenus comme tout le monde, par un dur labeur. Chaque jour tu travailles, chaque jour tu travailles. Daniel n'a pas eu à faire cela. Une seule circonstance a suffi pour faire que le roi reconnaisse que le véritable Dieu, c'était le Dieu de Daniel. Quand tu es proche de Dieu, quand tu prends conscience de Dieu, ce que les autres vont faire chaque jour par un dur labeur, Dieu te le donnera en une seule circonstance. En une seule circonstance, tout était réglé. Daniel élevé, bien-aimé. Joseph, à une seule circonstance. Une seule circonstance. Un songe. Joseph explique le songe et devient premier ministre. Mais avant ça, bien-aimé, il y a eu le temps de vivre en étranger, sur la terre. Joseph, rejeté par ses frères. Joseph, jeté dans le puits. Joseph, amené en esclavage en Égypte. Tout ce temps-là, c'est le temps que les gens refusent aujourd'hui. Les gens veulent que ce temps-là devienne très court. Le temps où Joseph est jeté dans le puits, amené en esclavage, on le séduit par la femme de son patron. Je sais que beaucoup aujourd'hui allaient dire, mon nom, bon, on n'a pas le choix. Déjà, je suis pas chez moi, je suis en Égypte. Je peux toujours tomber, c'est pas grave. Je suis loin. Je ne suis pas près de l'église. Le pasteur ne me voit pas. Je peux toujours tomber alors que Dieu est partout, bien-aimé. C'est ça la prise de conscience de Dieu. Quand tu sais que Dieu est partout, donc tu sais que partout tu vas commettre le péché, même si le pasteur n'est pas là, même si l'église, les gens de l'église ne sont pas là, Dieu te voit. Mais quand on n'a pas conscience de Dieu, on se dit, bon, personne ne me voit, je peux toujours. Joseph avait conscience de Dieu. Il a refusé l'offre de la femme de son patron. Ça l'a amené où? En prison. Bien-aimé, il pouvait contester, dire, ce n'est pas ma faute. C'est sa faute à elle. C'est elle qui a voulu me séduire. Non, il n'a pas contesté, il a accepté la prison. Bien-aimé, quand on cherche à contester, on n'a pas compris qui est Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le repos et dans la tranquillité. Il est parti, il a dit, d'accord, j'y vais. C'est ce temps-là que les gens veulent écourter aujourd'hui. Le temps de vivre en étranger. Ils veulent vivre en costaud. Ils veulent vivre en David contre Goliath tout le temps. Non, il y aura des temps où nous fuirons Saül comme David a fui, bien-aimé. Il y a des temps comme ça. Vous savez, Goliath, c'était qu'un seul jour. Hein? Mais David a fui Saül pendant des années. avant de devenir roi. Et nous, nous voulons écouter ce temps-là. J'ai dit aux gens que j'ai rencontrés au Congo, je leur ai dit, votre problème, c'est que vous faites de la loterie avec Dieu. Vous essayez un coup dans telle église, ça n'a pas marché. Un coup dans telle autre église, ça n'a pas marché. Un coup chez les Mormons, un coup chez les Adventistes, un coup chez un truc qu'on appelle combat spirituel, un coup, vous essayez une telle conférence, le pasteur là-bas va être peut-être ma solution, tu vas dans la conférence, vous ne faites qu'essayer Dieu. Vous ne vous engagez pas dans une voie avec Dieu et demeurez ferme dans cette voie-là. Il faut s'engager dans une voie. Il y en a même qui ont fait de l'Europe leur Dieu, bien-aimé. Moi, je dis, mais comment vous voulez que Dieu se sente à l'aise si dans ton cœur, il sent que pour toi, l'Europe, c'est quelque chose de grand? Dieu n'est plus bien. Si dans ton cœur, Dieu sent que pour toi, telle église, c'est quelque chose d'extraordinaire, Dieu n'est plus bien. Dieu veut que tu prennes conscience de lui. C'est lui le véritable Dieu. Il ne faut pas essayer. Il faut y aller. Avec Dieu, il faut y aller. Il ne faut pas essayer à gauche, essayer à droite, essayer. Je vais jeûner 40 jours, voir si Dieu va moindre. Je vais essayer. Non, avec Dieu, on n'essaye pas. Avec Dieu, on marche. On s'engage avec lui. On y va. Ça peut prendre du temps comme Joseph. Mais une seule circonstance suffit. Le Seigneur a dit dans Luc 18, il nous a donné l'exemple de la veuve. Elle priait, elle priait, elle priait. Rien ne se passait. Mais la Bible dit, le Seigneur pour les chrétiens va agir soudainement. Le problème, Dieu trouve pas suffisamment de gens comme Daniel, comme Joseph, des gens qui savent attendre patiemment. La Bible dit dans Lamentations 3, il est bon d'attendre avec en silence le secours de l'Éternel. Les gens sont impatients. Ils veulent écourter ce temps-là où Dieu est en train de faire que tu sois un individu, un homme, un chrétien, à part que tu prennes vraiment conscience de lui. Ils ne veulent pas ce temps-là d'épreuve. Ils ne veulent pas ce temps de formation. Alors ils écourtent cela par la colère. Ils écourtent cela en essayant à gauche, à droite. Tantôt, tu as prié Dieu pour ton projet. Après, ça change, tu prends une décision différente. Ils essayent. Avec Dieu, l'essayage ne marche pas. Dieu connaît le vêtement qu'il te faut. Il te donne une fois pour toutes. Les essayages dans plusieurs boutiques, Dieu n'aime pas cela. Dieu veut que tu prennes conscience, tu le pries et qu'il te conduise dans toute la vérité, bien-aimé. Nous avons vu ce qui est arrivé à Daniel parce qu'il s'est mis à part. Il a accepté de se laisser purifier, bien-aimé. Deuxième moment, bien-aimé, vivre en s'attendant à Dieu. On doit vivre différemment des gens du monde. La Bible dit nous devons nous séparer. Mais deuxièmement, nous devons nous attendre à Dieu. Dieu est notre secours et notre force. Nous ne devons pas chercher à faire par nos propres efforts. Nous devons nous attendre à lui. Et cela va se prouver par le fait que nous allons donner beaucoup plus d'importance à la prière plus que à toutes nos actions. On s'attend à lui. On dit, j'ai prié, j'ai prêché, j'ai fait ma part, j'ai donné telle somme, j'aime tel pays, eh bien, je m'attends maintenant à Dieu. Dieu va agir parce que j'ai prié. Mais lorsque Dieu sent qu'on a, voit qu'on a prié, mais on continue à s'inquiéter, Dieu n'est pas bien. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais toutes choses faites connaître vos besoins. Donc lorsqu'on a prié, nous devons avoir confiance que Dieu a compris qu'il va agir. On doit s'attendre à lui. Bien-aimé, il y a des moments où tu te concentres pour chercher la foi en toi, tu ne trouves pas. Tu veux faire un pas comme ça, il n'y a rien. En ce moment-là, bon, tu dis, Seigneur, il n'y a rien, quoi. Je m'attends à toi. Mais si en ce moment-là, tu veux quand même forcer, parce que tu veux te sentir un bon chrétien, faire les choses par tes propres efforts, c'est le chemin de l'orgueil et de la mort. Il faut s'attendre à Dieu. Bien-aimé, j'ai parlé à des gens. J'ai vu que les gens ne s'attendent plus à Dieu. Les gens ont désespéré. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru qu'en donnant $500 quelque part, ils auraient la réponse à leurs problèmes. Ils avaient cru qu'en donnant 100 ici, ils auraient la réponse à leurs problèmes. Ils avaient cru qu'en allant dans tel groupe, dans tel mouvement, ils auraient la réponse à leurs problèmes. Et ils ne l'ont pas eu. Et maintenant, ils continuent toujours à croire en Dieu. Mais c'est devenu de la religion. Ils se disent, ne pas croire en Dieu, c'est quand même quelque chose de sale. On croit toujours en Dieu, mais on n'espère plus de lui. On ne s'attend plus à lui. C'est le comportement de beaucoup au milieu de nous. Ils vivent en venant dans les églises, dans l'église. Mais est-ce qu'ils s'attendent vraiment à Dieu? Est-ce qu'ils s'attendent? Parfois, ils donnent des sujets à Dieu. Après, eux-mêmes, ils disent à leurs voisins, je crois que ce problème-là ne peut pas être résolu, quoi. Mais tu viens de prier. Après, tu vas dire à ton voisin, c'est un problème très difficile. Ça ne peut pas être résolu. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut choisir. Ou tu t'attends à Dieu, ou tu ne crois pas. La religion, c'est pas bon. Il faut la vraie foi. Tu t'attends à Dieu. David a dit, je m'attends au Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Vous savez, quand on est dans la nuit, le matin finit par arriver. Les gardes qui souffrent dans le froid, la nuit, dehors, ils savent qu'à un moment ou un autre, le soleil va poindre. Mais David dit, je m'attends à Dieu plus que ces gardes-là. Donc, il sait que Dieu va agir certainement, bien-aimé. Il faut qu'on apprenne à s'attendre à Dieu. Il faut qu'on apprenne cela. Il faut qu'on apprenne à espérer contre toute espérance. C'est le troisième point, bien-aimé. Il y a des choses qui semblent vraiment compliquées, comme ce que Dieu avait dit à Abraham. Tu auras un fils de Sarah, mais Sarah avait atteint 80 ans, et lui-même 100 ans. Il faut espérer contre toute espérance. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Bien-aimé, même si tout semble sombre, nous devons espérer. C'est l'espérance qui nous fera prier, c'est l'espérance qui nous fera avancer. D'ailleurs, Paul nous le dit, les trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Il faut espérer. Dieu est bon. C'est pourquoi nous avons besoin de lire souvent sa parole pour voir combien il est bon et grand. Il faut bien aimer, un autre point, expérimenter la paternité de Dieu. Ce que beaucoup n'ont pas expérimenté. Nous devons croire que Dieu est notre papa, bien-aimé. Pour bien comprendre ça, dans votre vie, lorsque vous avez des inquiétudes ou des questionnements, si vous êtes enfant, voyez comment votre père ou votre mère a été gentil avec vous, s'est occupé de vous quand vous étiez enfant. Et si vous êtes parent, imaginez quel serait votre comportement, même si vous êtes aujourd'hui enfant, imaginez-vous en parent, quel serait votre comportement vis-à-vis de votre enfant? Vous allez tout faire pour que votre enfant réussisse. Vous allez tout faire pour le protéger. Vous allez tout faire pour qu'il grandisse. Vous allez tout faire. Alors imaginez que Dieu est notre papa, mais il est très bon, infiniment bon, amour. Il va tout faire pour qu'on réussisse. Il va tout faire pour qu'on soit protégé. Donc, il faut qu'on prie en paix. Il faut qu'on s'attende en lui. Avec certitude, parce que c'est notre Père. Nous devons expérimenter cela comme Jésus a dit. Je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Beaucoup n'expérimentent pas cette paternité-là. Et ils sont dans les inquiétudes. Vous savez, quand un enfant n'est pas couvert, n'a pas ses parents à côté, il est inquiet. Nous devons considérer que Dieu est notre Père, nous ne serons plus inquiets. Nous nous laisserons porter par lui. Amen. Nous devons persévérer aussi, bien-aimés. Nous devons persévérer. C'est la preuve que nous avons pris conscience de Dieu. Ne pas s'arrêter. Tant qu'on est vivant, continue à marcher. Tant qu'on est vivant, le Seigneur est vivant, il va agir. Nous devons continuer à marcher. Bref, bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu plus qu'à tout. Si vraiment nous prenons conscience de Dieu, les autres nous trouveront anormaux. Parce qu'ils ne comprendront pas. Tu viens de prier, tu vas encore prier ailleurs. Tu vas encore louer Dieu. Tu viens de le faire déjà. Il y en a qui disent, mais tiens, ils ont été déjà au culte. Après, ils vont encore à une veillée. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais ils cherchent leur papa. Je m'imagine la soif de Jésus. Il était dans le temple. Les parents s'en vont, ils restent. 3 jours encore. Il était à l'aise, il était bien. Pour beaucoup, toutes ces choses-là sont devenues des obligations. C'est devenu du forcing. Bien-aimé, revenons à le véritable amour. L'amour pour le Père. La conscience de Dieu. Qu'il existe, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant. La conscience qu'il est notre papa. Et ne pas être inquiet. Vous savez, si on est vraiment conscient de la paternité de Dieu, on ne peut pas souhaiter le mal d'un chrétien. Parce que on saura que, puisque mon père c'est son père, papa ne peut pas accepter que j'haïsse son fils. Papa ne peut pas accepter que j'haïsse sa fille. On sera quelqu'un de calme. Parce que le souci du père, toi aussi tu l'as. Tu ne peux pas. Moi, j'ai dit aux gens, je ne maudirai jamais quelqu'un qui se dit chrétien ou même païen. Parce que je sais que Dieu n'a pas ces sentiments-là pour lui. Oh, moi, je suis le fils de Dieu, son enfant. Je ne peux pas avoir des sentiments différents de lui. Beaucoup de problèmes que nous avons au milieu de nous, c'est lié au fait que beaucoup n'aiment pas vraiment Dieu, ne considèrent pas vraiment comme leur papa. Il y a un manque de ce côté-là. Beaucoup sont dans l'activisme, sont dans un travail personnel, de réalisation personnelle. Être le bon chrétien, le bon intercesseur, le bon chantre, le bon pasteur. Mais si on est dans une logique de papa bien-aimé, les gens me disaient, mais pasteur, ici tu ne vas pas prêcher. Moi je dis, pourquoi? Je suis obligé de prêcher. Il me suffit d'aller communier avec mes frères et sœurs. Bien-aimé. Il y en a qui vont se battre. Je suis à l'étranger. Avant d'y aller, hein, il prend déjà des contacts pour savoir dans quelle église il va prêcher, bien-aimé. Mais pourquoi? Prier, ça ne suffit pas. Aimer les autres, ça ne suffit pas. Il faut sortir toujours du lot. Bien-aimé, Jésus nous a déjà sortis du lot. Qu'est-ce que nous voulons encore? Nous devons aimer le Seigneur, bien-aimé, plus que tout. Les gens qui avaient conscience de Dieu, nous voyons dans les actes des apôtres, hein, ils vendaient leur maison, ils donnaient tout à Dieu, tout aux apôtres. Ils avaient conscience de Dieu, que Dieu s'occupera de leur vie, bien-aimés. En Chine, il y a des pasteurs qui entrent en prison à cause de l'évangile. Ils laissent femme et enfants. Femme avec 4 enfants, alors que c'était le pasteur qui amenait l'argent à la maison pour qu'il mange. Mais il a conscience de Dieu. Il dit, je ne peux pas régner là, ma foi. On l'emprisonne, il entre en prison à cause de Jésus. Il sait que Dieu s'occupera de ses enfants. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Parce que Dieu est celui qui donne la paix. Il te dit, je m'occuperai de tes enfants. Bien-aimé, on doit expérimenter les choses qu'on lit. On ne doit pas seulement parler. On doit expérimenter. Si on dit que Dieu est tout-puissant, Dieu est omniprésent, Dieu est infiniment riche, nous devons expérimenter cela. À un certain moment, tu te dépouilles, à un certain moment, tu t'éloignes. Parce que Dieu a voulu que tu t'éloignes, tu sais que tes enfants seront protégés. Sinon, c'est des blabla, bien-aimé. C'est des paroles en l'air. Nous devons expérimenter que Dieu est Dieu, bien-aimé. Nous devons expérimenter. Nous devons l'aimer plus que tout. Et cela nous fera passer pour quelqu'un d'anormal. mais c'est la meilleure voie. Prenons conscience du Seigneur en pratiquant chaque jour la parole. Chaque jour. Prenons conscience. Quand tu pries pour la nourriture, tu prends conscience que c'est Dieu qui t'a donné cette nourriture. Tu dois prendre conscience que Dieu s'occupera de ta voiture. Tu dois prendre conscience que Dieu te protégera la nuit. Tu dois prendre conscience et vivre comme tel. Tu dois prendre conscience que l'application de la Bible fera de toi le premier et non le dernier. Et appliquer la Bible. Tu dois prendre conscience que le Seigneur a le dernier mot. Chaque jour, nous devons pratiquer. Ne cherchons pas à faire des grandes choses pour sentir qu'on a confiance en Dieu. Mettons confiance dans les petites choses de chaque jour. Bien-aimés. Lire la parole, la mettre en pratique. Comment prendre conscience? Deuxièmement, laisser Dieu nous entraîner. Tant que nous gérons notre propre vie, bien-aimés, on se choisira les bons coins, on se choisira les bons chemins, on se choisira les sentiers où il n'y a pas la difficulté, où il n'y a pas l'inconnu, où il n'y a pas, où on veut tout maîtriser. On va se choisir ce qui est à notre portée. Et en choisissant ce qui est à notre portée, on va se créer des problèmes parce que Dieu ne sera pas là. Laissons Dieu nous entraîner pour expérimenter la conscience de Dieu et les exploits de Dieu. Nous avons besoin de laisser Dieu nous entraîner. Bien-aimés, je veux clôturer en disant ceci. Pour bien comprendre cette prédication, il suffit de prendre exemple sur nos prédécesseurs. Ils ont laissé Dieu les conduire chaque jour. Joseph, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas contesté malgré les chemins tortueux, sinueux qu'il empruntait. Il n'a pas discuté. Ah, c'est moi, j'ai eu la vision que c'était moi le plus grand. Il n'a pas discuté. Il a suivi. Et en une seule circonstance, Dieu a changé les choses. Regardons Daniel. Ils n'ont pas contesté Dieu d'être déporté de chez eux. Ils n'ont pas contesté. Regardons Élie. Il n'a pas contesté d'être seul contre les prophètes de Baal. Il a dit, je vais les combattre. Il n'a pas cherché à ce qu'ils soient nombreux. Regardons Jean-Baptiste. Il n'a pas contesté d'être seul dans les déserts en train de prêcher. Il a accepté de suivre Dieu. Et quand on suit Dieu, on expérimente sa gloire. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, en prêchant dans le désert, à un moment, la foule est venue l'entourer. Il a vu que la prédication est vraiment puissante. La parole peut aller toucher les cœurs et les ramener à Dieu. Nous devons laisser Dieu nous porter, nous mener, nous conduire. Et quand il nous mènera, il nous conduira. Bien-aimés, sachez-le, personne n'a déjà dit « Je suis content, Seigneur, tu me conduis. » Non. Il y aura des moments difficiles où on voudra autre chose. Mais Dieu nous dira « C'est ça. Tu suis ce que moi je te dis. » Laissons Dieu piloter, bien-aimés. C'est là que chaque jour, nous serons obligés. Vous savez, quand Dieu pilote, c'est là que tu es obligé de revenir à la Bible. C'est là que tu es obligé de revenir à la prière. Parce que pour supporter la conduite du Seigneur, tu as besoin de sa parole et de la prière, quoi. Tu as besoin de lui. Et c'est là que tu vas expérimenter la vraie délivrance. Regardez tous nos prédécesseurs. Ils ont expérimenté de grandes choses parce qu'ils ont laissé dans un premier temps Dieu les conduire. Ne résistons pas au Seigneur. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous aider à reprendre pleinement conscience que tu es Dieu. À reprendre pleinement conscience que tu t'occupes de nous, Seigneur. Que tu veux notre bien, Seigneur. Nous voulons prendre pleinement conscience que tu es notre Père. Ô Seigneur, nous refusons la routine, la religion. Nous refusons la logique de plaire aux hommes, Seigneur. Nous voulons suivre ta parole et prendre pleinement conscience que tu nous aimes, que tu es notre Père, que tu veux nous aider à vivre dans la paix, la simplicité, la gloire. Merci Seigneur de nous pardonner l'incrédulité, de nous pardonner les doutes, Seigneur. Merci Seigneur de nous pardonner la colère, de nous pardonner la peur qu'on a laissé dominer sur nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons réellement sortir de la religion pour entrer dans une vraie relation. Nous avons vu dans le texte, Seigneur, que Marie et Joseph étaient venus dans une logique habituelle. Mais ton fils Jésus était venu te rencontrer, était venu faire ton travail, travailler dans l'entreprise familiale. Alléluia. Merci Seigneur de nous faire prendre conscience encore que tu es notre Papa. Que nous soyons en paix, Seigneur.